Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Onvard, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Manuel Couturier. Aujourd'hui, nous recevons Maurice Ruben Ayoun pour parler du roi David. Maurice Ruben Ayoun, bonjour.
Bonjour.
Nous vous avons déjà invité aux Racines du Ciel. Vous êtes philosophe, écrivain, bibliste, auteur de nombreux ouvrages, notamment Maïmonide ou l'autre, Moïse, chez Pocket, qui vient donc d'être édité avec un supplément donc, par rapport à l'édition originale. Vous avez rajouté une introduction inédite sur le thème Maïmonide, lointain précurseur de la psychanalyse, point d'interrogation. La philosophie juive chez Armand Collin, et puis récemment aussi, le roi David chez Perrin, et c'est pour ce dernier ouvrage que nous vous avons invité, parce que je crois que nous n'avons jamais parlé de cette figure, cette grande figure biblique du roi David, figure très importante pour les juifs, mais aussi pour les chrétiens, vous nous expliquerez pourquoi. Alors racontez-nous un peu l'histoire, parce que évidemment on a tous des brides de culture générale ou plus religieuse pour certains, où on se dit le combat de David contre Goliath, etc. Mais il faut peut-être raconter, parce qu'elle est vraiment intéressante, son histoire, que ce que la Bible nous dit du roi David. Et puis on se posera la question historique, parce qu'on a quand même des traces de son existence, enfin, les choses sont assez précises. Donc à quelle époque a vécu cette figure ?
Alors, vous avez très bien délimité le champ d'investigation, Frédéric. C'est effectivement le David de la tradition ou le David de l'histoire. Alors, selon la chronologie biblique, David serait né en moins 1040 et aurait quitté ce monde en 970. C'est-à-dire, vous voyez, 70 ans, c'est un petit peu suspect. Il a aussi régné 40 ans, comme son fils Salomon, la Bible adorant les chiffres ronds. Et puis, qui nous parle de David ? C'est intégralement les deux livres de Samuel, puisque le prophète Samuel fait la jonction entre les juges et les prophètes. Mais il a fallu attendre le 21 juin 1993 pour qu'une équipe d'archéologues et d'arpenteurs dans le nord d'Israël, à Tel Dan, sous la direction du professeur Abraham Biran, découvre un morceau d'asphalte, alors celui-là je le connais par cœur, 32 cm de long, 22 de large, 13 lignes, et à la 9e ligne, un roi d'Aram, qui serait l'auteur de cette stèle triomphale, se vante d'avoir tué au combat deux petits rois de la maison de David. Alors ça se dit Beit David. Les archéologues et les philologues étant des maîtres du soupçon, on s'est demandé est-ce que le mot « Beit » ne voulait pas dire le temple, comme on le dit en hébreu ou comme on le dit en arabe. Et on s'est demandé est-ce qu'il ne fallait pas dire « Beit Doud ». Et on a vu que cette divinité ne figurait dans aucun panthéon sémitique. Donc, force a été de reconnaître qu'il s'agissait bien du roi David, de la maison de David, et que la Bible n'était pas la seule à nous parler de ce grand roi, même si, entre nous soit dit, on a beaucoup, comment dirais-je, amélioré sa figure. Hein. C'est pour ça que je dis...
Bien sûr, on parlera au conditionnel.
C'est ça, voilà. De la Bible. Mais au moins, il a existé.
Il a existé. Je sais.
Alors,
que d'autres
archéologues... Moi, à mon avis, c'était un cheikh qui prenait le thé sous la tente. Et la ville de Jérusalem, à ce moment-là, était une misérable bourgade juchée sur un piton rocheux. Et que c'est après, avec Salomon, qu'elle a un peu, c'est un peu arrangé. Mais en réalité, c'est vers le 14e ou 15e descendant de la dynastie davidique, c'est-à-dire le fameux roi Josias, 640-609 avant Jésus, que Jérusalem a pris véritablement la dimension qu'on lui connaît, et que le culte monothéiste a été véritablement assis dans le temple de Jérusalem et chez le peuple hébreu, alors qu'en réalité, auparavant, le culte de Yahvé n'était qu'un culte à côté de beaucoup d'autres. Oui.
Et je crois, pour terminer avec cette histoire archéologique, qu'effectivement, plus on progresse dans l'archéologie, plus on a maintenant des certitudes sur, effectivement, à Jérusalem, l'existence d'une première ville au Xe siècle, donc qui correspond avant assez Jésus, bien, oui. avant Jésus-Christ, qui correspond assez bien, pour une fois, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas souvent le cas avec l'archéologie et la Bible,
à la cité
de David.
Oui, c'est donc, exact.
Alors, cette figure donc, qui a donc, très probablement existé, qui était le roi des Juifs. Racontez-nous ce que la Bible, maintenant, avec tous les conditionnels possibles, nous dit de son histoire.
Alors là, il y a effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une superposition de plusieurs couches. Pour faire bref et plus directement, je dirais ceci. On nous présente ce garçon comme un frêle berger. Frêle berger. On dit qu'il était le troubadour ou le ménestrel du grand roi Saül, qui était un preux, c'est-à-dire un vrai combattant, un chevalier. Et ce pauvre Saül aurait été atteint par aurait été un maniaco-dépressif. Il avait, dit la Bible avec beaucoup de méchanceté, des crises de démence. Et il s'est adressé au père de David, qui s'appelle Jessé, en hébreu Ishaï, et il lui a dit « Envoie-moi ton fils », et il ajoute « Celui qui est préposé au troupeau ». Donc on apprend qu'il était berger. Et puis, un chapitre plus loin, au chapitre 17 du premier livre de Samuel, on s'aperçoit qu'il y a le fameux épisode de Goliath. Goliath harangue l'armée judéenne, il nargue les lignes judéennes, le roi Saül est pétrifié, Jonathan, son fils, un preux, est inexistant, et arrive ce frêle berger qui dit « Bon, ben moi je vais y aller ». Et Saül le regarde et lui dit « Viens ici mon fils, tu es un petit garçon, cet homme est un combattant depuis son plus jeune âge ». Et là, David lui dit « Mais si, je vais me mesurer à lui ». Et du coup, on s'aperçoit que la Bible est véritablement un texte de théologie et pas un texte d'histoire. Puisque le discours que ce jeune berger tient est un véritable bréviaire d'un grand théologien. Je ne vois pas un berger, bon, toujours cru en la sagesse et l'ingéniosité d'Israël, mais à ce point, ça me paraît un peu invraisemblable. Alors, il tient un discours absolument incroyable d'un sens théologique parfait en disant « Tu vas voir, tu es en train de parler, d'insulter le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël va te livrer entre mes mains et je vais t'oxyre. » Et on nous le décrit avec la panoplie, si je puis dire, du berger. Un petit bâton, une besace et quelques cailloux, des pierres, des silex. La suite, vous la connaissez. Goliath le voit et lui dit d'une manière humiliante « Me prends-tu pour un chien, puisque tu viens contre moi avec un petit bâton ?» Et on nous décrit l'armement de Goliath. Or, cet armement-là, les historiens l'ont montré bien avant moi, évidemment, correspond point pour point à l'armement de l'hoplite grec, c'est-à-dire du fantassin du VIe siècle à Athènes. Et c'est impressionnant, parce que la Bible nous donne le poids du glaive, le poids du bouclier, et nous montre l'écuyer qui précède Goliath. Finalement, la suite, vous la connaissez, avec la fronde, David vient à bout de ce soudard. Mais en réalité, ce chapitre-là, 17, a été, pour ne vexer personne, un peu surchargé. C'est-à-dire que dans la Septante, par exemple, il fait 28 versets. Dans la Bible grecque, il en fait 54. Et en plus, on a l'impression que c'est Dieu, c'est la main, c'est la providence divine qui a confié à d'humaines mains, celle de David, le soin de frapper Goliath pratiquement à mort. Mais en réalité, on s'aperçoit que ça ne pouvait pas être ce petit et frêle berger qui soit venu à bout d'un tel géant. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que quelques chapitres plus loin, vers le chapitre, je crois, 28 ou 29, je cite de tête, on nous dit, comme ça, incidemment, que Goliath, qui venait de Gath, la pentapole, c'est-à-dire les fameuses cinq cités philistines, Goliath a été oxy par un hébreu qui s'appelait Elhanan de Bethléem. Alors le Talmud, qui n'en est pas à sa près, nous dit, mais Bethléem, c'est aussi la ville de naissance de David. Elhanan, c'est un autre nom de David. Mais en réalité, là, il y a un petit problème. Donc, si vous voyez, comment est-ce qu'on a pu passer du berger au ménestrel et au grand combattant. Ensuite, à celui qui se bat pour accéder au pouvoir, celui qui arrive, parce qu'il a oxy Goliath, à être le gendre du roi Saül, et ensuite qui accède à la royauté. Et finalement, David, grâce à ça, est devenu, parce qu'on lui a un petit peu aidé, le parangon du bon roi chrétien, parce qu'il est le premier roi à avoir été un roi de droit divin, puisque Saül, le pauvre, n'a été qu'une éphémère parenthèse, ce qui explique la grande fortune de David, non seulement chez les Juifs, qui l'ont quand même produit, mais aussi chez les chrétiens, puisque, un, il est, en tant que monarque davidique, il est aussi un monarque messianique, ce qui explique, par exemple, que pour Jésus, on met ses pieds dans les traces du roi David. Comme lui, il est de Bethléem, alors qu'en réalité, on dit Jésus de Nazareth. Comme lui, il a été choisi par Dieu. Et il y a des tas de, comment dirais-je, de correspondances qui expliquent qu'un homme comme David, qui a quand même commis quelques péchés...
J'en vais en parler. Dites pas tout d'un coup, là.
Je ne dis pas tout d'un coup, voilà.
Non, mais pour rebondir juste sur l'aspect messianique, parce qu'on a compris la royauté, elle lui est venue par ce combat héroïque, et ensuite, effectivement, aussi, on parlera de sa sagesse, de son amour pour Dieu.
Absolument.
Mais pour rebondir sur l'aspect messianique, et réexpliquez-nous un petit peu ce que c'est que cette dimension messianique dans le judaïsme, et pourquoi on l'a associé à David et à sa descendance.
Oui, alors... On l'a associé à David, en fait, pour des raisons inexplicables. Personnellement, en tant qu'historien et philosophe, je ne comprends pas la gravité du péché de ce pauvre Saül qui lui a valu, n'est-ce pas, l'abdication, en tout cas la séparation et l'anéantissement de sa lignée pour la royauté. On a voulu voir en David celui sur lequel le Seigneur, Dieu, avait jeté son dévolu pour en faire son serviteur, et qui, malgré toutes les fautes qu'il a commises, mais je n'y fais que faire allusion, a quand même été conservé dans sa dignité messianique. C'est-à-dire qu'au fin fond, en tant que philosophe et philologue, je ne comprends pas ce qui lui a valu ça. Il me semble que comme il est le fondateur de la dynastie, on ne pouvait pas lui préférer quelqu'un d'autre. Moi, personnellement, logiquement, j'aurais choisi le 16e de la dynastie, c'est-à-dire le roi Josias, celui qui a purifié le temple, celui qui a installé le monothéisme au cœur de Jérusalem et qui a fait du peuple judéen un vrai et un grand peuple. David, c'est un peu le désespérado, si je puis dire, le résistant, l'homme qui a songé que Nathan, le prophète, quand il lui dit « je veux bâtir une maison pour Dieu », commence par lui dire « ouais, c'est une bonne idée ». Puis la nuit portant conseil, il revient et il lui dit textuellement, parce que c'est un roi, il ne lui a pas dit « tu ne bâtiras pas », il dit « est-ce bien toi qui bâtiras la maison de Yahvé ?» Donc si vous voulez, il y a eu des hésitations, on en a fait l'origine de la monarchie et de la dynastie messianique, mais il n'a pas eu le privilège de bâtir le temple, c'est son fils, pourquoi ? Et là, le livre des chroniques le dit beaucoup plus méchamment, si durement que le livre de Samuel, il dit « il a versé trop de sang. Il a versé. » Et on ne précise pas de manière assez perfide si c'est le sang de ses ennemis.
Ou de ses amis.
Ou si c'est le sang du mari de sa dulcinée.
Voilà, on va en parler. Ah ouais. Mais juste encore un point sur le Messie, pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est que le Messie. C'est quoi
le Messie,
cette attente messianique, voilà, la figure du Messie?
Voilà, le Messie, c'est un terme hébraïque qui vient du mot « oindre ». Onction. Pour être oint roi, il fallait que l'on vous passe un peu d'huile sacrée sur la chevelure. Ça s'appelait l'onction royale. Et donc, le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction de l'envoyé de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette idée de Messie? C'est que tout simplement, chez le prophète Isaïe, au chapitre 6 en particulier, on parle que du rameau du fils de Jessé naîtra une sorte de bourgeon, et on compare le Messie qui va venir à une sorte de floraison dans la maison d'Israël. Et puis, on lui accorde un certain nombre de privilèges, c'est-à-dire, il va juger Israël en vérité, c'est-à-dire, il jugera pas d'après ce qu'il voit, mais d'après ce qu'il y a dans le cœur. Il ramènera à la justice et il instaurera le royaume de Dieu sur la terre. C'est ce qu'on appelle finalement, c'est ce que Jésus nommera le royaume de Dieu sur terre. Il le disait en araméen, Jésus, ça se dit « Malchuta di Shemaya » et en hébreu, c'est « Malchut Shamaim ». Et c'est vrai que c'est l'idée que l'humanité, c'est une idée typiquement, je crois, juive et biblique, que l'humanité a besoin d'être rédimée et qu'un jour arrivera son sauveur qui le sauvera. Et pour les Juifs, évidemment, c'est quelqu'un qui vient de la dynastie davidique.
Oui, et c'est quelqu'un qui a un pouvoir politique. Ce n'est pas simplement un messie spirituel, c'est un messie spirituel et temporel. Il a ces deux dimensions. C'est tout le malentendu qu'il y aura avec Jésus.
Absolument.
Parce qu'effectivement, un certain nombre de ses disciples voudront faire un messie triomphant, un messie qui lutte contre les Romains, un messie qui libère Israël. Et Jésus les renverra un peu en touche en disant « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Et il acceptera de se laisser mener jusqu'au supplice. Et alors là, on en vient à un point aussi important. On vous avait évoqué tout à l'heure, mais je voudrais en dire, vous nous en disiez un mot un peu plus précis. C'est qu'effectivement, ceux qui ont écrit les évangiles, les disciples de Jésus qui ont écrit les évangiles, ont absolument voulu rattacher, pour cette raison-là, Jésus
à
David. Et là, on a tout ce débat qui agite encore aujourd'hui les historiens. Où est-ce qu'est né Jésus ? Pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus naisse à Bethléem pour être attaché à David ?
Mais parce que David, on dit bien en hébreu, Beth Halachmit, Bethléem, c'est Bethléem. Et le David, le Bethléémite, pour parler comme la Bible.
Ça veut dire qu'il venait lui-même de Bethléem.
Il venait lui-même de Bethléem et toute sa famille, Jessé et autres, y étaient basés. C'est-à-dire parce qu'il faisait partie de la, comment dirais-je, de la tribu de Benjamin.
Et il fallait que ce Messie soit né forcément à Bethléem ?
Bah non, mais comme celui que l'on présumait être le Messie dans sa descendance l'était, on a fait naître Jésus là-bas.
Lélie Anvar, bonjour.
Oui, bonjour. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit sur justement le Messie et la question de l'onction. Et en vous écoutant, tout d'un coup, ça me frappe de penser que finalement toute la théorie de la royauté de droit divin telle qu'elle se développe en Occident chrétien, donc le roi chrétien, finalement reproduit complètement cette image, ne serait-ce que par le rite de l'onction, qui donc reprend...
Elle vient de là.
Reprend la... Donc, finalement, tous les rois de la chrétienté sont des sortes de, sinon des descendants, au moins des représentations symboliques de cette figure royale par excellence qu'est David.
Absolument, Lélie, vous avez raison, c'est une lignée spirituelle. Vous avez parfait... En vous écoutant, je me souviens de ce que j'ai écrit dans le livre. Au début, je crois, la couronne de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Conrad II, vers 1000, porte, serti de diamants, portait la description de deux scènes bibliques du roi David et de son fils, le roi Salomon, parce que véritablement, on a voulu voir dans ces deux rois, qui sont des rois assez exceptionnels, en tout cas par la littérature, le symbole d'une royauté de droit divin, mais qui est insurpassable. C'est-à-dire, David, c'est un petit peu, comment dirais-je, même aujourd'hui, j'ai utilisé un terme latin là pour dire David qui n'est jamais mort, David redivivus, c'est-à-dire qu'on parle de lui comme s'il est encore vivant. Et les Juifs qui font la prière de la Néoménie, c'est-à-dire la nouvelle lune, à trois reprises, ils disent David, roi d'Israël, est vivant et bien debout.
Oui,
et je me suis souvent demandé pourquoi. Ben, c'est parce que la lune décroît, ensuite c'est la pleine lune, ensuite c'est le quartier de lune. Et il reprend, c'est-à-dire...
Il ne meurt jamais, revient toujours.
Il revient toujours.
Et alors, il revient aussi toujours, justement, par sa descendance. Et l'autre chose qui me frappe, c'est qu'avec... J'ai l'impression que c'est au moment des événements autour de l'histoire ou du mythe du roi David qu'on va entrer dans l'idée que ça se transmet de père en fils. Mm-hmm. Donc, et qui va être, modèle qui va être repris... Évidemment, à nouveau par les rois chrétiens, dans les règles dynastiques. Hein. Il faut que ce soit la descendance. Et ce qui est très intéressant, c'est que, justement, Jésus va renverser cette histoire de sang en la transformant en une idée spirituelle, mais que la politique, à nouveau, la chrétienté va le reprendre dans un sens complètement littéral. Puisque avant, c'était les juges. Juste avant Saül, si j'ai bien compris,
absolument.
Il n'y a pas de roi.
Non, non.
Saül est un mauvais roi, donc sa descendance sera asséchée, mais... Le roi David va instaurer l'idée de la dynastie.
Vous avez parfaitement raison, car la règle de la succession n'existait pas auparavant. La preuve, si je puis dire, a fortiori en soutien de ce que vous venez de dire, c'est que ce pauvre Jonathan, qui était le prince héritier, pas un instant, il ne songe à faire valoir ses droits, ni même à dire « mais c'est moi qui arrive dans la liste de succession en tout premier. Et vous avez raison, c'est à partir de là, parce que ça n'était pas, même dans les dynasties, enfin dynasties, dans les royautés anciennes, c'était pas « mon fils va me succéder ». Alors qu'avec David, ça a été presque une, comment dirais-je, une chose automatique, un déroulement automatique.
Voilà, alors que lui a été élu d'ailleurs.
La règle successorale, effectivement, n'allait pas de soi. Et c'est lui, en plus, qui l'a en quelque sorte imposée. Et elle a été reprise dans ce que j'ai dit au début de l'émission, le modèle de tout bon roi chrétien.
Et alors, je crois, petite chose aussi intéressante là-dessus, je crois me souvenir dans le livre de Samuel, qu'au départ, à travers la bouche de Samuel, Dieu dit qu'il ne souhaite pas qu'il y ait un roi.
C'est-à-dire que, exact. Il y a un Samuel anti-monarchique.
Et oui, vous avez parce raison. Que votre cœur est endurci, exact. J'accepte qu'il y ait un roi.
Parce que voilà, c'est tout à fait vrai, oui. En fait, les rédacteurs ou les scripteurs de l'historiographie biblique, je vous rappelle que l'historiographie biblique, son introduction, c'est le livre du Deutéronome, et il y a 6 bouquins qui suivent, et la fin, c'est le deuxième livre des rois. Donc c'est tout un défilé, si je puis dire, de grandes personnalités historiques, et c'est la vision biblique de l'histoire. Ça commence comment ? Israël a des juges. Ils s'adressent à Samuel et ils lui disent « tu es vieux ». Tes fils ne se conduisent pas bien. La Torah nous dit qu'ils avaient une inconduite avec les jolies femmes qui venaient dans le temple se faire pardonner leurs péchés. Alors, c'était pas très bien. Et donc, ils lui disent, tu es vieux, tes fils ne font pas l'affaire, donne-nous un roi. Il commence par leur dire, vous savez, c'est pas bon. Dieu lui dit, tu vas faire ce qu'ils te disent de faire. C'est pas toi qu'ils offensent, c'est moi. Alors, ils vont voir ce que c'est qu'un roi. Donc déjà, la monarchie, si je puis dire, Saülide, le pauvre, commence mal. D'ailleurs, Saül, on n'arrive pas à savoir exactement qui il était. Dans mon livre, j'ai essayé de le distinguer seul. Je voyais toujours qu'il servait de repoussoir à ce bon David. Ou alors qu'il faisait le fou, le malade mental, ou le roi qui ne tient pas parole. Puisque David, il lui dit, si tu vins Goliath, je te donnerai ma fille aînée. Et puis probablement, il se ravise, il se dit, oh là là, si je lui donne ma fille aînée, il a déjà un pied sur le trône. Je vais donc lui donner la cadette. Et finalement, il ne la lui donne pas. Enfin, c'est assez...
C'est toute une histoire. On ne va pas rentrer dans les détails. Non. Une autre question sur ça, justement. Pourquoi est-ce que Dieu est contre la monarchie, à votre avis ? Est-ce que...
Parce qu'il est le seul roi de l'Israël.
Voilà. J'allais vous dire, est-ce que c'est parce que Dieu est le seul roi ou est-ce qu'il est plutôt démocrate et qu'il trouve que le peuple doit être gouverné par une élection ?
Non, ça, je ne crois pas. D'autant qu'il n'y avait pas d'élection. Encore que... Saül a été, comment dirais-je, proclamé à Malvin lorsqu'il a proclamé, quand il a vaincu une peuplade qui s'était permis de faire une incursion sanglante en terre d'Israël. Et donc, il avait sauvé des gens qui, finalement, après... par reconnaissance envers lui, sont allés de nuit et au péril de leur vie récupérer sa dépouille mortelle. Et donc, ils ont véritablement rendu à Saül les derniers devoirs. Ils ont donné à Saül la sépulture royale qu'il méritait. Mais en réalité, on ne comprend pas très bien, je le répète, pourquoi ? Parce qu'il n'a pas obéi véritablement aux ordres de Dieu par l'intermédiaire de Samuel, en épargnant le roi Agag et en n'annihilant pas le bétail. Mais ça, c'est pas une raison pour véritablement, comme a dit tout à l'heure Leïli, assécher toute une dynastie.
Alors, autre point très important, les psaumes. Ah. On attribue les psaumes à David. Et donc, avant évidemment qu'on puisse avoir une lecture de psaume avec Leïli, je voudrais que vous nous disiez un petit mot sur cette attribution des psaumes à David. Est-ce que c'est plausible ? Est-ce que c'est...
Alors, je vais vous faire une réponse, mon cher Frédéric, assez politique, pour ne gêner personne. Il est évident que David, sa personnalité telle qu'il nous apparaît, je ne parle pas du mythe ni du personnage lisse qu'on a tissé par la suite, n'avait pas du tout le genre à s'installer quelque part, la tête entre les mains, et à pondre des psaumes. En revanche, les événements qu'il a vécus ont été une inspiration fertile pour un certain nombre de scribes et de lévites qui, eux, ont rédigé les psaumes. Ce qui veut dire que finalement, David les a rédigés spirituellement. Il les a inspirés, mais très fortement, puisque tous les grands épisodes de sa vie, tels qu'ils sont relatés dans les deux livres de Samuel, trouvent leur expression littéraire, et quelle littérature, dans les psaumes. Par exemple, quand il a fui chez le roi philistin Achish. Dans les psaumes, on parle d'Avimelech, parce que Avimelech, c'est un nom passe-partout, ça veut dire mon père et le roi. Donc, si vous voulez, si on ne trouve pas votre nom, ben, vous êtes roi, ben, l'autre, vous êtes Avimelech. Hein. Donc, tous les grands, comment dire, tout ce qui est arrivé à David a trouvé son expression littéraire dans les psaumes. Donc, on peut dire que d'une certaine manière, il en est l'auteur.
Alors, les psaumes, donc 150 textes, 150 prières qui sont dans la Bible hébraïque et qui ont été repris par la liturgie chrétienne, puisque les moines aujourd'hui, dans tous leurs offices, chantent les psaumes. Donc, c'est vraiment un succès extraordinaire.
Absolument. C'est un patrimoine de l'humanité.
Lélie Envard ?
Oui, absolument. Et d'ailleurs, dans toutes les littératures chrétiennes, en réalité, les poètes ont repris ces psaumes à leur manière, ils les ont retravaillés, traduits, adaptés. Bon, c'est une source d'inspiration inépuisable, évidemment, pour toute la littérature, justement, qu'elle soit purement littérature ou la littérature dite spirituelle. En tout cas, vous avez choisi le psaume 13. Et avant de le lire, ce psaume, je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, nous avons aussi une autre originalité. C'est que vous êtes venu avec l'un de vos amis, qui est un éminent violoniste, Yigal Shamir. Je vous laisse nous en dire deux mots.
Oui, écoutez, c'est un grand honneur pour moi. Que d'abord, je vous remercie d'avoir bien voulu accepter que mon éminent ami, le grand violoniste de réputation internationale, M. Yigal Shamir, ait pu se joindre à nous. Et puis, Yigal, pour faire bref, a commencé à toucher un violon quand il avait 5 ans. C'est vraiment un virtuose et je tiens à lui exprimer ma profonde reconnaissance et ma vive amitié d'avoir bien voulu nous accompagner ici.
Oui, nous aussi d'ailleurs, nous sommes très heureux de l'accueillir et d'avoir pour une fois de la musique, comme on dit, live.
Donc juste après la lecture du psaume.
Juste après la lecture du psaume, parce qu'en réalité, le morceau de musique qui va être joué au violon est une composition inspirée de ce psaume 13. Jusques à quand, Yahvé, m'oublieras-tu obstinément ? Jusques à quand me cacheras-tu ta face ? Jusques à quand éprouverai-je des souffrances en mon âme, de l'affliction en mon cœur, journellement ? Jusques à quand mon ennemi triomphera-t-il de moi ? Regarde, réponds-moi, Yahvé, mon Dieu, éclaire mes yeux, de peur que je ne m'endorme dans la mort, de peur que mon ennemi ne dise « je l'ai emporté sur lui » et que mes adversaires ne jubilent si je suis ébranlé. Quant à moi, j'ai confiance en ta grâce, que mon cœur jubile en ton salut, que je chante à Yahvé puisqu'il m'a fait du bien, que je psalmodie le nom de Yahvé, le Très-Haut.
Bravo et merci à Yigal Shamir pour cette magnifique interprétation donc en direct du studio de France Culture. Je rappelle Maurice Ruben Ayoun que vous êtes l'auteur du Roi David chez Perrin. Alors il y a un point qu'on a un tout petit peu évoqué, c'est le moment d'y venir. C'est l'action de la faute du Roi David. Donc vous nous disiez qu'il avait commis un certain nombre de graves fautes et que Dieu, malgré tout, semble-t-il, lui a pardonné. Alors racontez-nous un petit peu maintenant la face sombre du Roi David.
Oui, alors vous savez, il y a un chapitre dans le livre qui s'appelle « David et les femmes ». Il fallait bien lui donner un titre. Donc, il était assez, porté sur la gent féminine. Et puis, il arrive qu'un jour, alors que le roi est dans son palais, il a fait la sieste, il est sur sa terrasse, et il aperçoit, sur une terrasse voisine, une femme qui prend son bain et qui est dans son plus simple appareil. Il demande qui elle est, il l'envoie chercher. On est au 11e siècle avant Jésus. Il ne s'agissait pas de lui envoyer des roses ou de discuter avec elle, il n'y avait pas de préliminaire. Il l'a fait venir, et le texte hébraïque n'y va pas par 36 chemins. Il l'a fait venir, nous dit-on, et il couche avec elle. Et puis, ça a dû se produire un certain nombre de fois, donc ça devait jaser à Jérusalem, mais un jour, la belle dame en question, qui s'appelle Bethsabée, et dont l'oncle était l'un des meilleurs conseillers de David, Achitophel, qui se mura en son implacable ennemi par la suite, elle lui envoie dire qu'elle est dans l'attente d'un heureux événement. David s'affole.
Parce que la dame était mariée, c'est ça que vous avez pas
la
dit,
dame mais était, qui est important. Oui, mais j'allais y venir. Et la dame était mariée, et elle était mariée, pire, à un officier du roi David, qui s'appelle Uri le Hittite, qui était un brave homme, gentil, sympathique. Alors David réfléchit, et il ne voit pas d'autre possibilité que de l'envoyer chercher, alors que l'armée d'Israël était en campagne contre une ville qui s'appelait Rahav, et on fait venir ce jeune officier, et David le reçoit. Puis il lui pose des questions un peu étranges. Alors comment va le général Joab? Comment se portent les troupes? Où en êtes-vous? Et Uri, qui a oublié d'être un idiot, ne comprend pas très bien. Puis le roi lui dit après, écoute, rentre chez toi et lave tes pieds. Ce qui est une manière très pudique dans la Bible de dire, parce que si on vous fait couler un bain, cher Frédéric, à cette époque-là, c'est l'épouse qui le fait. Et en général, elle fait plus que vous faire couler un bain. Donc, il lui disait une allusion claire. L'autre arrive et il se dit, il n'est pas possible que je me fasse dorloter par mon épouse alors que mes compagnons d'armes sont en train de se battre pour Dieu et pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe la nuit sur le seuil de sa porte. Les serviteurs de David arrive affolé, disent à David, « Majesté, il n'a pas dormi chez lui. » Comprenez-moi bien. David le fait venir et le fait boire. Rien à faire, Ourineux. Il fait l'idiot, il ne touche pas à sa femme. En désespoir de cause, David décide d'user de grands moyens. Il lui dit, « Demain, tu vas rentrer et je dois te donner un message pour le général Joab. » Et dans ce message, il lui dit d'exposer au maximum Uri pour qu'il meure. C'est pour ça qu'en français et en allemand, on dit une lettre d'Uri, et en allemand, on dit Urias brief, c'est-à-dire vous portez vous-même le message de votre propre condamnation sans le savoir. Et ça, c'est quand même une chose terrible pour la morale, et en particulier pour l'éthique juive. À part le fait de l'adultère, de tuer en plus le mari de sa maîtresse, même quand on est le roi d'Israël, c'est quelque chose qui est absolument inacceptable. Et alors Joab obéit, on expose ce pauvre Uri, on avance vers l'ennemi, et une fois qu'il est bien exposé, on recule, il est seul, il meurt. Le prophète Nathan arrive dans le palais royal, et il demande à voir David. Et il lui dit, je vais te raconter une allégorie, une parabole. Tu sais, il y avait deux hommes. Il y en avait un qui avait des milliers de brebis. Il était très riche et très puissant. Et il y en avait un autre qui n'en avait qu'une seule. Le soir, la nuit, elle dormait dans ses bras. Quand il déjeunait, elle buvait, elle mangeait avec lui. Donc, allusion. Et il lui dit, tu sais ce qui s'est passé? Le riche est allé prendre la brebis du pauvre et il l'a abattue pour la donner à manger à ses convives. Le sang de David ne fait qu'un tour. Et il lui dit, cet homme est le fils de la mort. C'est-à-dire, il mérite la mort. Et là, Nathan a cette phrase terrible en hébreu, « Ata ha'ish, c'est toi cet homme !» David se confond en supplique, en excuse, et puis bizarrement, le texte hébraïque passe. Il lui dit, « tu as reconnu ta faute, tu ne mourras pas. Parce que vous vous rendez compte, si jamais il mourait, toute la construction historique messianique d'Israël s'effondrait. Et il fait, comment dirais-je, acte de repentance, et puis il vient à résipiscence, comme on dit en théologie catholique, mais ça ne suffit pas. Et le prophète Nathan lui dit, d'accord, tu ne mourras pas. Et au chapitre 7 du deuxième livre, il lui dit, ta monarchie sera éternelle. Parce que l'enjeu était énorme. Il dit, mais le glaive ne quittera plus jamais ta famille. Et c'est vrai. Il suffit de voir dans un autre chapitre, David et ses enfants. Amnon viole sa demi-sœur Tamar. Absalom, le frère de Tamar, monte un stratagème et le fait poignarder par ses serviteurs. Il y a des tas de choses qui se passent dans cette famille où on s'entretue. Ensuite, il y a des coups d'État avec les frères de Salomon. Il y a un embrouillamini absolument incroyable. Et tout ça, c'est le paiement au comptant.
Mais ça peut aller presque jusqu'au massacre des innocents de Bethléem.
Absolument. C'est-à-dire, ça va, c'est-à-dire une cascade de malheurs à cause de cette affaire.
C'est presque le péché originel version juive.
Version juive ou version davidique.
Davidique, en tout
c'est-à-dire
cas.
C'est-à-dire que David a bon...
Les rois maudits.
C'est le pauvre Saül, hein, qu'il ait voulu une femme, quand on est le roi. Bon, d'autant que le Zohar...
Voilà,
dit
qu'ils étaient destinés l'un à l'autre.
Absolument. Nous dit que depuis les 6 jours de la création, David et Bethsavé devaient convoler, mais en juste noces.
Voilà, et pas que faire assassiner le mari.
Pas faire assassiner le mari.
Oui, et alors justement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a quand même cet enfant qu'elle porte, va mourir.
Ah, exact. Ah,
ouais. Mais il y aura un deuxième, et ce deuxième sera quand même Salomon. Donc évidemment, à ce moment-là, David ne pouvait pas mourir. Et en même temps, il a quand même cette punition d'avoir le premier-né de Bethsabée, en tout cas, qui va,
absolument.
Qui va peut-être porter sur lui cette mort qui était destinée aux fautes du père.
C'est d'ailleurs, il ne faut pas oublier que ma formation, elle est d'abord philosophique, avant d'être historienne. Je ne comprends pas très bien que l'on fasse payer à un enfant qui n'y est pour rien la faute de ses parents, et qu'il paye au prix fort, d'ailleurs, de sa vie, l'inconduite de son père et l'inconduite, dirons-nous, ou l'infidélité de sa maman.
Oui,
mais
non,
la Bible hébraïque est passée là-dessus. Est-ce que finalement, la Bible considère le fœtus comme une personne ? Ou est-ce que finalement, tant que l'enfant n'a pas un certain nombre de jours ou de mois dans le giron maternel, est-ce que finalement ça n'est pas encore un être humain ? Mais on pourrait interroger les textes en question sur ce point. Mais toujours est-il que la Bible va très vite. Elle dit voilà, il est mort, et puis ça voulait dire aussi que ça n'était pas, comme on dit, un enfant conçu dans le péché. Vous faire très, très, très attention. Ce n'est pas de la philosophie pure ici. C'est de la philosophie, mais c'est aussi quelque chose qui est à l'ombre de la croyance et dans le noyau, c'est véritablement la foi.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas le revers de ce qu'on a dit sur la dynastie ? C'est-à-dire que ça, si le pouvoir se transmet, l'élection se transmet par le sang, eh bien aussi le péché et la faute.
Absolument.
On ne peut pas recevoir...
La bénédiction et la malédiction.
Voilà, les deux
oui,
se transmettent.
Oui.
Et ce qui est étrange, c'est que ça se transmet par le sang. Il y a quand même une idée de transmission.
Oui, oui, mais là, en quelque sorte, j'ai failli dire, ils ont payé.
Oui.
Elle a perdu ce bébé. C'est quand même une chose affreuse. Vous savez, dans la prière de Kippour, avec toutes les bénédictions qu'on demande, on dit aussi qu'aucune femme ne perde involontairement le fruit de ses entrailles. Chez l'autre, tapil, isha, peri, bitna. C'est quelque chose
terrible.
C'est quelque chose, j'imagine, pour une maman et même pour un papa. C'est quelque chose qui est... Et surtout pour une femme. C'est quelque chose qui doit être absolument terrible. Donc, ils ont en quelque sorte payé. Et là, c'est un nouveau départ. Puisqu'on dit, il conduisit Bethsabée dans sa maison, dans le palais. Il l'épousa. Ils s'aimèrent, mais on voit bien que la Bible expédie ça, parce qu'on est vite, on est pressé de faire accepter la naissance pure, si je puis dire, de Salomon.
Alors, est-ce que dans les psaumes, il y a des psaumes, j'imagine, de contrition de David ?
Ah oui,
C'est quelque chose qui doit être présent aussi dans la...
Ah ben, il y en a un qui commence comme ça. Prière de David, lorsque le prophète Nathan est venu le morigéner gravement... à cause de Bethsabée. Mmh. Et il y a une phrase de David qui est absolument magnifique. car il dit, quand on lui dit « tu as commis un grave péché », il dit « oui, mais j'ai péché contre Dieu ». C'est-à-dire, c'est de lui que j'implore le pardon. Et il lui dit « contre toi seul j'ai péché, et le mal à tes yeux j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi. Et désormais, j'apprendrai tes prescriptions. »
C'est le psaume combien, celui-là ?
Je le cite
c'est
de tête.
C'est le psaume 50, non ? C'est pas le miséréré qui est devenu le... dans la tradition chrétienne, le miséréré, contre toi et toi seul j'ai péché.
Oui, c'est etc. exact, c'est vrai, c'est vrai. Il dit Lecha levadecha chatati. Exact, oui, oui, oui.
Qui a donné naissance au fameux miséréré d'Allegri, ce morceau de musique exceptionnel qu'on aurait pu mettre, mais comme on a la chance d'avoir un musicien.
Tout à fait.
On va... Alors avant qu'on réécoute un autre morceau de musique, on va peut-être, Lélie Anvard, lire un autre psaume.
Oui, peut-être. Alors, avant aussi le psaume, je voudrais faire une introduction en lisant un texte qui est hors du judaïsme, mais qui vous montre à quel point cette figure du roi David, et vous allez voir qu'on va revenir au psaume et à la musique, justement, c'est resté dans l'histoire comme une sorte de figure symbolique de celui qui chante, qui représente la face de Dieu et qui chante la gloire de Dieu. Et nous lirons après, justement, le psaume Alléluia, qui est le dernier psaume. Mais ça m'a beaucoup frappée de lire dans un texte d'un des premiers, en fait, mystiques musulmans, Zunnun Misri, qui est cité par Louis Massignon, un texte très étonnant qui montre qu'en réalité, les âmes parfaites au paradis auront la grâce d'entendre, de voir David et d'entendre, de l'entendre dire ses psaumes. C'est dire à quel point, dans la tradition mystique, David est devenu justement la figure de celui qui glorifie le Seigneur, par excellence. J'ai lu dans la Torah que les hommes pieux qui croient, qui marchent dans la voie de leur Créateur et provoquent par leur récit à l'obéissance, ceux-là verront le visage du Seigneur, ce qui est le comble de tout espoir pour l'amoureux sincère, voir le visage de Dieu. Il ne leur fera pas de grâce plus grande en leur réunion que de voir son visage. Et j'ai appris qu'après la vision, il leur fera grâce d'entendre les voix des esprits angéliques et la psalmodie par David du psautier. Ah, si tu pouvais voir, David ! On apportera une chair élevée d'entre les chairs du paradis, puis il leur sera permis d'y monter pour faire entendre la louange et la gloire de Dieu, tandis que tous dans le paradis seront attentifs. Prophètes, saints, anges... Alors David commence la récitation du psautier, le cœur paisible, nuançant les inflexions de sa voix, atténuation, reprise, silence, soulignant la coupe des phrases par son débit, maintenant ce qui doit être constant, variant ce qui doit changer. Et l'extase commence pour ceux qui sourient dans l'excès de la joie. Et le jeu royal répond à David, et les belles recluses des châteaux acclament sa divinité. Puis, David monte le ton de sa voix pour que la joie atteigne à son comble. Leur ayant fait ainsi entendre sa voix la plus aiguë, les élus du paradis se dressent hors de leur demeure, tandis que les houris répondent à David de derrière les voiles de leurs appartements par des chants d'allégresse. Alors, les montants de la chair se haussent, les vents résonnent, les arbres vibrent, tandis que les chants s'échangent et se répondent, et le roi dilate l'entendement des élus pour rendre leur joie parfaite. Et si Dieu n'avait décidé d'avance qu'elle doit leur durer toujours, ils périraient d'allégresse.
Magnifique.
Et on retrouve presque des images de David regardant Bethsavée derrière le
absolument,
voile.
Absolument.
Comme s'il reprenait toute la tradition biblique historique en la transmuant en une scène, évidemment, purement de l'autre monde. Et une scène paradisiaque. Évidemment, c'est particulièrement délicieux dans le contexte actuel de voir que les houris chanteront le chœur avec David.
Absolument.
Mais visiblement, ce n'est pas pour ce monde-ci. Le deuxième psaume que nous allons lire, donc, c'est précisément un psaume d'Alléluia. On imagine tout à fait que David puisse le chanter en présence du roi céleste. Et voici ce que dit ce psaume. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le au firmament de sa puissance. Louez-le pour ses prouesses. Louez-le pour l'excès de sa grandeur. Louez-le au son du cor, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le sur le tambourin et par la danse, louez-le sur le luth et la flûte, louez-le avec les cymbales retentissantes, louez-le avec des cymbales de fanfare, que tout être animé loue Ia. Alléluia.
Merci infiniment, Yigal Shamir. Cette musique hein, qui réjouit l'âme, réchauffe le cœur. Merci Maurice Ruben Ayoun de nous avoir permis de découvrir en ce qui nous concerne Yigal Shamir. Et puis nous terminons cette émission. Il reste encore quelques minutes pour que nous puissions parler d'un autre aspect du roi David hein, pour ce livre que vous avez, cette biographie chez Perrin que vous venez de publier. Une question qui est très d'actualité finalement, parce qu'on parle beaucoup de l'homosexualité et il existe une association en France qui s'appelle David et Jonathan qui est une association fondée par des homosexuels juifs et chrétiens et donc on s'appuie sur le couple David et Jonathan pour montrer qu'il pouvait y avoir un amour entre hommes. Racontez-nous cette histoire d'amour entre David et Jonathan, est-ce qu'on peut parler d'homosexualité ou pas?
Écoutez, je commencerai par dire que comme vous, comme la plupart des gens intelligents de ce pays, je ne suis pas homophobe. Mais je puis vous garantir qu'il n'y avait aucune relation homosexuelle entre David et Jonathan. Alors vous allez me dire, alors, sur quoi se fonde la rumeur? Ben, c'est très simple. Lorsqu'il y a eu cette fameuse bataille, qui était terrible, où Saül et ses fils, notamment Jonathan, ont été tués, David a composé une élégie qui est très très belle, et où il dit, ça commence comme ça, « Ô Israël, des morts sont, enfin des corps sont tombés », et au milieu, il dit, « Jonathan, Jonathan, ton amour m'était plus cher que celui des femmes ». Or, ça ne veut rien dire puisqu'il a eu, entre guillemets, c'est-à-dire il a contracté mariage avec au moins 8 femmes. Huit femmes. Donc, ils avaient de quoi y parler. Mais ils voulaient simplement dire que l'affection qui les liait était supérieure, si je puis dire, au désir. Parce que, bon, on peut aimer une femme, bien évidemment. On peut la désirer aussi. Mais il aimait Jonathan, mais sans le désirer. N'oubliez pas aussi que si on va jusqu'au bout, que s'il avait épousé Michal, la fille cadette de Saül, il était aussi le beau-frère de Jonathan. En plus, il a en quelque sorte pris sa place. Donc je ne vois pas très bien.
Oui, rien n'est dit d'explicite sur l'homosexualité.
Je vous assure.
C'est cette phrase-là qui a suscité.
C'est cette phrase-là. Et puis il y a une deuxième chose. Comment voulez-vous que les scripteurs qui ont écrit ces passages-là aient pu oublier le passage du Lévitique que je ne fais que citer, hein, auquel il ne faut pas m'identifier aux propos que je rapporte. C'est tu ne coucheras pas avec un mâle d'un couchage, si je puis dire, je traduis très proche du texte, d'un couchage de femme, 2 points, Toeva hi, c'est une abomination. Alors, les temps de la Bible sont ce qu'ils sont. Aujourd'hui, heureusement, les choses ont changé. Les êtres qui s'aiment, ça n'est pas une abomination. Mais dans le cas de David et de Jonathan, cela repose sur un contresens absolu.
Donc, c'est une grande amitié.
C'est une immense amitié. C'est une immense amitié. Moi, je peux vous dire qu'il y a des personnages importants de l'État d'aujourd'hui ou d'ailleurs, ou d'hier, qui m'envoient des cartes de vœux extrêmement vibrantes et j'en fais de même, sans qu'il y ait une amitié profonde, sans qu'il y ait de désir, dans le sens où l'on a, ce qui est normal, un désir pour une femme. Maintenant, à chacun de vivre comme il l'entend.
Son interprétation.
Voilà. Mais c'est une interprétation, je m'excuse de le dire, qui est erronée.
Alors, comment a fini David?
Il a fini comme un vieillard qui avait des pertes thermiques et le texte hébraïque a voulu, à mon avis, se venger un peu de lui parce que l'homme qui a tellement aimé les femmes, qui n'a reculé devant rien pour les avoir, il était tellement souffrant qu'on lui a choisi une jeune vierge qui s'appelait Abisag, la Tsunami, très belle jeune fille, qui dormait dans ses bras puisqu'on avait beau accumulé, amoncelé sur lui des couvertures, il n'avait pas chaud. Alors on a pensé à la chaleur organique, si je puis dire, mais le texte hébraïque dit « mais le roi ne l'a connu point ». Évidemment, il n'en était plus,
capable,
en mesure de faire quoi que ce soit. C'est donc, à mon avis, une sorte de pied de nez. Parce que vous savez, les talmudistes ou la communauté juive qui a quand même conservé le texte hébraïque, il faut lui savoir gré, sinon l'Église l'aurait laissé, je m'excuse, tomber, ça c'est évident, fait parfois preuve d'un trop grand sérieux et méconnaît totalement l'aspect, comment dirais-je, ironique ou humoristique de la Bible. Ah, tu as beaucoup aimé les femmes, hein, tu prenais beaucoup de bon temps avec eux. Ben voilà. C'est un peu, c'est quand même une, c'est presque une punition. Une très belle jeune fille, en plus elle est vierge, mais...
Et c'est drôle parce que ça fait penser à Gandhi, qui effectivement se réchauffait aussi au contact de sa nièce, et comme quoi le modèle de David a prévalu partout dans
partout,
le monde.
Partout, absolument. J'ignorais cette affaire de Gandhi, mais il faut dire aussi que les femmes, cher Frédéric, ont toujours été utilisées, les pauvres, comme des forces d'appoint, si je puis dire. Je ne veux pas dire un chauffage d'appoint.
Ouais, ouais. Et quelle est sa toute fin? Il est mort comment?
Il est mort dans son lit. Mais avant de mourir, il a quand même laissé un petit testament sanglant. C'est ce qui me laisse, c'est ce qui me permet de dire que la vraie nature de David, c'est quand il s'énerve. Alors, il dit à son fils, je vais quitter ce monde comme toute chair, mais j'ai quelques recommandations à te faire. Tu dois régler son compte à Shimei Ben Guerra, puisqu'il m'a injurié et il m'a lapidé à coups de pierre lorsque j'ai quitté mon palais... poursuivi par ton frère le putschiste, et il lui dit tu vas faire selon ta sagesse. Hein? Mais il lui dit, il faut que tu lui règles son compte. Et il lui dit, Joab, le chef de l'armée, il a versé du sang innocent, lui aussi, n'oublie pas que tu as un compte à régler, mais c'est pas qu'un testament sanglant, il dit, Barzilai, celui-là m'a aidé, il m'a nourri quand j'étais en fuite, celui-là reçois-le chez toi au palais. Donc on peut dire qu'il finit...
Comme il a été, c'est-à-dire qu'il est humain pour le meilleur et pour le pire jusqu'au bout.
Je crois que vous avez dit le mot humain.
Merci beaucoup Maurice Ruben Ayoun. Donc le roi David chez Perrin. Et puis je rappelle également que vous sortez chez Pocket, Maïmonide ou l'autre Moïse, avec une nouvelle introduction sur Maïmonide, lointain précurseur de la psychanalyse. Merci infiniment.
Merci à vous.
Et merci beaucoup aussi encore une fois au violoniste Igal Shamir. Cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. La semaine prochaine, nous recevrons Simon Veil qui viendra nous parler d'Einstein et de Dieu. Dans un instant, vous retrouvez le journal de 8h. Excellent dimanche à tous.